RFI, la radio du monde.
Le monde change. Claire Hédon pour RFI.
Bonjour, j'ai le plaisir de passer cette semaine avec vous dans Le Monde Change. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les origines du langage. Pourquoi l'être humain s'est-il mis à parler? Dans quel contexte? Et pourquoi les primates, dont nous sommes très proches, ne parlent-ils pas? Pour aller au cœur de ce mystère, je reçois Jean-Louis Dessalles, chercheur à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, et avec également Jacques-Olivier Baruche, journaliste au magazine La Recherche, qui publie justement un dossier sur ce thème « Pourquoi nous parlons ?». Jacques-Olivier Baruche, bonjour.
Bonjour.
Dans ce numéro du mois d'avril, La Recherche se penche aussi bien sur les chimpanzés que sur les gènes ou encore sur une fabrique d'ion.
Oui, comme tous les mois, nous essayons de parcourir un petit peu l'éventail des disciplines scientifiques et de voir un peu ce qui se passe dans toutes les disciplines. Mais effectivement, le gros dossier du mois, c'est le langage, l'apparition du langage.
Et pourquoi nous parlons?
Pourquoi nous parlons? Comment nous parlons? Est-ce qu'on a des hypothèses sur cette apparition du langage?
Jean-Louis Dessalles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc chercheur à l'École nationale des télécommunications. Alors, la grande différence avec les animaux, c'est qu'en fait, nous parlons. Eux ne parlent pas. Ils émettent des bruits.
Voilà. Donc, ils communiquent. Nous communiquons aussi, mais on a envie de dire que nous communiquons d'une manière différente. Beaucoup de gens essaient de dire qu'il y a seulement une différence quantitative. Effectivement, nous parlons beaucoup. Nous consacrons à peu près un cinquième de notre temps éveillé à parler. Mais si on compare avec les oiseaux aussi communiquent énormément, une très grande partie de leur temps. Alors si on cherche d'autres différences, alors si on cherche cette fois des différences qualitatives, c'est assez difficile. Hein. On va trouver par exemple le fait que le langage humain utilise une grammaire, une syntaxe. Et si on cherche bien, on trouve que chez les rossignols, il y a la même chose. Hein. Les rossignols sont capables d'avoir des messages sans cesse renouvelés avec plusieurs niveaux de combinaison, avec des thèmes qu'ils combinent. Donc en fait, on est un peu gêné pour trouver des différences qualitatives vraiment indiscutables. Alors on peut dire aussi qu'on fait référence, avec notre langage, on fait référence à des situations absentes. Et malheureusement, les abeilles font de même. Hein. On a découvert, on le savait depuis l'Antiquité, mais c'est Carl von Frisch, au milieu du siècle dernier, le 20e siècle, qui a montré, qui a trouvé le code par lequel les abeilles communiquaient. Donc, elles communiquent la position de nourriture assez loin dans la ruche, par une espèce de danse qui est faite dans l'obscurité de la ruche. Et donc ça nous enlève une originalité de notre langage. Donc l'originalité du langage, il faut la trouver ailleurs.
Est-ce qu'on a une définition ou un consensus sur la définition du langage maintenant? Qu'est-ce que c'est qu'un langage?
Alors, un langage en général, on le fait par analogie avec le langage humain. Hein. On a un seul exemple parce que le langage humain a quand même des caractéristiques tout à fait étonnantes et je vais sans doute le dire dans un moment, unique. Hein. Mais effectivement, quand on parle du langage, on parle de la communication des oiseaux, la communication des baleines, la communication des dauphins. Pourtant, c'est encore très mystérieux. Pour le cas des dauphins, notamment, on ne comprend pas grand-chose.
Mais on ne parle pas de langage, là. On parle bien de communication.
Voilà, si on parle de langage, c'est vraiment par analogie. On n'a pas envie de parler de langage. En tout cas, s'ils ont un langage, il est très différent du nôtre. Le langage humain, au moins parmi les primates, est unique.
Donc, en fait, on a du mal à définir ce langage.
Alors, on peut le définir. D'abord, il est quand même unique aussi dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que tous les êtres humains parlent à peu près de la même façon. Alors ça a l'air paradoxal parce qu'ils parlent des langues qui apparaissent très différentes. Mais si on regarde les langues, la structure des langues, on trouve quand même beaucoup de ressemblances entre les différentes langues. D'où l'idée que, en fait, cela provient d'une compétence que l'on a, une compétence langagière qui s'actualise dans les langues, les différentes langues, la langue que chacun apprend de sa mère et de son environnement, mais que les différentes langues, quand même, ne sont que l'expression de cette capacité biologique que nous avons de parler.
Et justement, il y a des explications physiques au fait que nous parlions et que les primates ne parlent pas.
Alors voilà, alors il y a des corrélations physiques, hein, dire que ce sont des causes. Alors tout le monde connaît, hein, la position très très basse de notre larynx qui nous permet de faire des sons vocaliques puissants et très variables et non pas des sons nasillards. Et donc on peut moduler par aussi la langue qui est un organe extraordinaire que l'on peut moduler pour parler, donc la modulation des cordes vocales. Donc tout cela est manifestement une adaptation biologique au langage. Mais ce n'est certainement pas la cause du fait que nous avons un langage, c'est l'effet plutôt en termes d'évolution biologique. C'est parce que nous, en tant qu'espèce, nous avons intérêt à avoir un langage que ces adaptations se sont produites et non pas l'inverse.
Et ça voudrait dire que les primates pourraient parler et qui vont se transformer au fur et à mesure physiologiquement.
Voilà, alors ça, c'est le sens de tout le sens du travail qu'on a fait, c'est d'essayer de montrer que les primates, si les primates ne parlent pas, c'est certainement pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'évoluer vers le langage, pas du tout. C'est qu'ils n'ont pas d'intérêt biologique au sens de la théorie de la sélection naturelle de Darwin, ils n'ont pas d'intérêt à parler. Donc, alors que pour une raison qui reste à élucider, qu'on essaie de comprendre, c'est nos ancêtres se sont trouvés dans une situation où ils avaient intérêt à communiquer.
Alors, reprenons ces trois hypothèses là qu'on décrit un petit peu dans la revue de la recherche.
Voilà, alors dans le dossier de la recherche, il y a effectivement trois hypothèses. L'hypothèse de Dunbar sur le rôle social du langage, l'hypothèse sur le geste de Corvallis, et puis ma propre hypothèse sur le scénario politique de l'origine du langage.
Votre hypothèse sur laquelle on va revenir justement. Aujourd'hui, dans Le Monde Change, sur RFI, nous sommes en compagnie de Jean-Louis Dessalles, qui s'est penché sur l'origine du langage. Jean-Louis Dessalles, vous parlez d'origine politique du langage. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, si les hommes se sont mis à utiliser le langage, c'est qu'ils y ont trouvé un intérêt. Et justement, vous avez cherché quels sont ces intérêts.
Alors, paradoxalement, l'intérêt qu'on peut trouver à parler n'est pas évident en termes biologiques. Quand on parle, on donne une information utile aux congénères. Et dans le cadre de la théorie de l'évolution par sélection naturelle, c'est difficile à comprendre parce qu'on devrait se préoccuper plutôt de sa propre survie plutôt que de celle des copains. Donc c'est très difficile à comprendre et c'est sans doute pour cela que les animaux ne communiquent pas comme nous, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas des informations utiles la plupart du temps à leurs congénères. Nous, on passe énormément de temps à parler de choses qui sont potentiellement utiles, des événements inattendus, des sources de nourriture nouvelles, des dangers qui arrivent. Tout cela provoque chez nous des actes de communication.
Et ces informations, justement, peuvent être utiles pour survivre.
Alors voilà, c'est utile pour survivre. Alors, beaucoup d'animaux sont curieux, hein, donc ils sont attirés par la nouveauté, mais ils la gardent pour eux. Hein. Alors que nous, on ne peut pas s'empêcher de la communiquer. Hein. Dès qu'on voit, je sais pas, si on marche dans les rues de Paris et qu'on voit un petit lapin, on va le signaler aux autres. Alors qu'en fait, on pourrait se contenter d'avoir son attention attirée par l'animal, mais on va tout de suite en parler aux autres, attirer leur attention. Ça, les animaux ne le font pas.
Quand on regarde les primates... Ils annoncent aux autres, attention, il y a une nouveauté ici quand même. Ils le font eux-mêmes, non ?
Non, apparemment pas. D'après les études des primatologues, ça peut être fait... Bon, il y en a qui prétendent qu'ils l'ont vu une ou deux fois, on ne peut pas l'exclure totalement, mais ce n'est certainement pas systématique. Chez les humains, c'est systématique. C'est-à-dire que nous avons non seulement notre attention est attirée, mais en plus nous en faisons un acte de communication. Donc c'est ça qu'il faut expliquer, c'est pourquoi nous nous rendons service comme ça, par le langage et sans arrêt.
Et justement, vous êtes penché sur cette idée qu'il y aurait un troc d'informations. On l'échangerait, on en donne une contre une autre.
Voilà, ça c'est une idée que j'ai étudiée, mais à la fin que je récuse, c'est qu'on pourrait effectivement comparer l'information à une marchandise et qu'on ne la donne que dans l'espoir d'en recevoir une de même valeur. D'où l'idée de troc, le donnant-donnant. Alors le problème de ce scénario, c'est qu'on s'attend à des prises de parole tout à fait circonspectes. On va faire très attention à qui on parle et on va vérifier que les autres rendent l'appareil un peu lorsque, si vous avez des très bonnes informations pour investir en bourse, vous allez regarder à qui vous les donnez de manière à être sûr qu'on vous rendra un service.
Voilà.
Le langage ne marche pas comme ça, on ne comprendrait pas. Pourquoi il y a des gens si bavards et pourquoi ceux qui savent ont tellement envie de le dire à tout le monde. Ça cadre absolument pas avec ce scénario de troc.
Alors vous avez abouti à quelle hypothèse du coup ?
Alors voilà, il fallait faire une hypothèse. Moi je suis modélisateur, je fais des modèles et je les teste avec les ordinateurs. Et il y en a un qui marche assez bien et qui s'inspire un petit peu de ce qu'on observe chez les chimpanzés. C'est de replacer l'utilisation du langage dans le cadre politique, c'est-à-dire dans le cadre de la formation d'alliances. On sait que les chimpanzés s'allient pour prendre le pouvoir dans leur groupe. Ils font des petites coalitions de 2-3 individus pour arriver à supprimer la prééminence de tel ou tel autre individu beaucoup plus vigoureux qu'eux. Et donc, l'idée, c'est que c'est un peu dans ce genre de contexte que le langage est né. La seule hypothèse qu'on a besoin de faire, c'est que les coalitions de nos ancêtres, les ancêtres hominidés, étaient plus nombreuses. Et à ce moment-là, la force physique jouait moins de rôle prédominant. Et l'idée, c'était que acquérir l'information, montrer une capacité à acquérir l'information avant les autres, devenait un critère essentiel pour être choisi comme
allié. Le chef. Ça m'a vraiment étonné, parce que moi, j'étais toujours persuadée que, justement, nos ancêtres, c'était la force physique uniquement qui comptait. Et vous prouvez que non, justement. Le langage a eu un rôle à ce moment-là et c'était celui qui était capable de donner ces informations et de les récupérer qui pouvait être le chef, et pas simplement parce qu'il était le plus fort.
Voilà, c'est le centre de l'hypothèse, c'est qu'il y a eu un changement, c'est que la force, même si elle a continué à jouer un rôle important, n'était plus le facteur déterminant et que la capacité à savoir avant les autres était, et de le montrer donc, par le langage, était quelque chose de tout à fait essentiel pour le choix des partenaires.
Jean-Louis Dessalles, quand Claire nous dit vous avez prouvé cette hypothèse, la validité de cette hypothèse, en fait, comment vous avez fait ? Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de fossiles, il n'y a pas de preuves matérielles qui abondent dans votre hypothèse. Comment vous faites ? Vous êtes un modélisateur, vous nous avez dit, c'est-à-dire que vous faites de l'informatique.
Oui, non, je ne prétends absolument pas prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas possible. On peut même dire qu'en science, on ne prouve jamais rien. On peut montrer la cohérence d'un modèle. Ou l'incohérence d'un autre. Donc en fait, l'idée, c'est de développer au moins un modèle qui soit à peu près cohérent, c'est-à-dire dans lequel on voit la propension à communiquer émerger. Donc les agents, on fait des simulations informatiques dans lesquelles des agents ont des informations potentiellement utiles qu'ils peuvent donner, et on montre que dans certaines conditions, qui sont précisément ces conditions dans lesquelles ils forment des coalitions, ils ont intérêt à montrer qu'ils ont des informations, parce que ça montre qu'ils ont eu la capacité de les acquérir. Donc en fait, on cesse de comparer l'information à une marchandise, c'est pas comme dans le troc. L'idée, c'est que l'information, on la donne rien que pour montrer une capacité, la capacité à savoir avant les autres.
Pour montrer qu'on est le plus fort.
Voilà. Thank you.
Jean-Louis Dessalles, la parole est donc un moyen d'afficher sa propre valeur. Mais en fait, pour communiquer, nos ancêtres ont commencé par les gestes, tout simplement, avant que la parole vienne.
Oh, ça, on n'en est pas sûr du tout, mais c'est en tout cas la thèse que défend Michael Corbalis dans le numéro de la recherche. Et il a des arguments pour cela, hein, notamment les gestes qu'on emploie spontanément lorsqu'on parle.
Qu'on on continue à faire.
On peut pas, et même à la radio, on gesticule alors qu'on ne nous voit pas. Et donc il y a cet argument-là, la facilité qu'il y a de relier le geste à ce qu'il signifie. Ce qui est beaucoup plus difficile pour des mots. Donc, pour ces différentes raisons et d'autres, la facilité que nous avons, notamment dans le cas des malentendants, de former spontanément des langues des signes, tout cela peut amener des auteurs comme Michael Corbalis à imaginer que le langage a commencé à être gestuel et n'a été oral que par la suite.
Et justement, les trois hypothèses qui sont développées dans ce magazine de la recherche, elles ne m'ont pas paru du tout antinomiques, c'est-à-dire elles me paraissent même assez complémentaires. Chacune des idées peuvent
oui,
s'ajouter
on peut
les unes aux autres.
Oui, alors c'est celle de Dunbar, la troisième. Dunbar est primatologue, lui, il est allé étudier les singes. Hein, il ne se contente pas de regarder des individus virtuels dans une machine comme je fais moi. Il est allé voir des vrais singes. Et il est allé observer donc, le comportement des pouillages. Et il a été frappé par l'analogie entre, vous savez, les chimpanzés ou les babouins. Ils s'épouillent, ils passent un temps considérable à s'épouiller.
Des heures entières.
À se chercher des poux dans le pelage, alors qu'en fait, ils n'ont quasiment pas de...
Y a 20% rien de leur temps, c'est ça?
À peu près autant de temps que nous en passons à discuter.
Ça veut dire que c'est une forme de langage, ça.
Alors, c'est, non, disons que le langage a remplacé les pouillages dans cette, donc ce comportement des pouillages. Dunbar l'analyse comme un gage d'amitié. Hein, celui qui va épouiller son congénère, il lui prouve qu'il est prêt à faire une alliance avec lui, il investit du temps. Un peu comme nous faisons, nous, avec nos amis. On passe du temps à parler avec eux. Et si jamais on délaisse un ami pendant un certain temps, on ne lui parle plus, il s'inquiète et il essaie de renouer le contact, de l'engager avec nous. Donc d'où l'idée de Dunbar, cette analogie très forte entre les pouillages et le langage.
On dit que ça crée un lien social.
C'est l'hypothèse du lien social pour le langage. Ce qui est tout à fait compatible avec ce que raconte Corbalis sur les gestes ou mon propre discours sur le scénario politique.
Est-ce qu'on peut imaginer l'évolution du langage? Alors l'évolution, parce que là on discute des origines, mais souvent les scientifiques essayent de voir un peu ce qui s'est passé avant, quelle a été l'évolution justement. Là, est-ce qu'on a des traces ou des idées sur l'évolution du langage et surtout ce que va devenir le langage?
Alors, on ne peut avoir des idées là-dessus qu'à une échelle plus petite, qui est celle de l'évolution des langues. Hein. Donc, on peut remonter à quelques milliers d'années en arrière. Certains remontent à quelques dizaines de milliers en arrière pour regarder l'évolution des langues. Et par exemple, l'influence récente de l'écrit qui nous pousse à faire des phrases de plus en plus construites et complexes et imbriquées. Donc ça, et puis surtout l'évolution vers des langues plus positionnelles, comme le français ou l'anglais, et qui utilisent moins le cas, vous savez qu'il y a en latin par exemple, il y a des langues casuelles. Donc voilà, c'est une évolution qu'on observe, mais est-ce qu'on peut l'extrapoler pour l'échelle historique? Oui, un petit peu, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la même échelle de temps que celle dont on parlait tout à l'heure, où on allait allègrement sur des millions d'années en nous demandant comment on avait commencé à parler alors que les autres primates ne parlent pas.
Et là, on a du mal à prévoir ce qui se passera dans quelques millions d'années.
Oh, tout à fait.
Jean-Louis Dessalles, merci. Je rappelle que vous avez participé à un dossier sur les origines du langage, paru dans le magazine La Recherche du mois d'avril et intitulé « Pourquoi nous parlons ?». Merci aussi à Jacques-Olivier Baruche. Demain, nous nous intéresserons à la vie quotidienne des chercheurs. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? À l'occasion de la sortie du livre « Jour après jour, les aventuriers du savoir » paru aux éditions Autrement. Françoise André a réalisé cette émission avec à la technique Suzanne Chupin.